sur le slalom, musique au zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Par le cadre du 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Shiz 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Away le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Je te disais que je voulais changer le monde avec le rock'n'roll. Je pouvais à peine changer de bobette. Je réussis juste à changer de blonde pis mon fusil d'épaule. Quand le désir devient des projets, seul sur le sable, les yeux dans l'eau, je suis devenu un hobo. Je traîne mon matelas sur mon dos. Je guiderai plus ton auto. Je t'ai laissé le chat pis la TV. Faut dire que les deux étaient à toi.
Faire des tunes, je pense pas que c'est mon mandat. Je suis là pour dire calisse, envoyez donc par là. Je me donne la carte blanche, je tombe pas mes gants blancs. Je peux s'en noyer à quel point la fille qui a pas de bon sens. Des tunes down, je laisse au blues. Tout le monde en poêle pour la partouze. Ah ouais, à soir, on vire.
Voilà près d'une année qu'on jase de sagesse. Du réalisateur Richard Linklater au botaniste Marie Victorin, en passant par l'artiste d'arts martiaux Bruce Lee, l'anthropologue Serge Bouchard, le rappeur Tupac Shakur, l'homme politique Winston Churchill, la journaliste internationale Céline Galipeau, et j'en passe. On a voulu explorer tous ces lieux d'où jaillit l'intelligence humaine, littérature, philosophie, art de la scène, musique, politique, humour, histoire, science, bande dessinée, cinéma, anthropologie, actualité, et j'en passe. Est-ce à dire qu'on trouve de la sagesse partout? Partout, partout? Il faut continuer à chercher. Pour une deuxième fois, on s'intéresse à ces figures que nous avions mis de côté, se disant, peut-on vraiment trouver de la sagesse chez cette personne? Eh oui, bienvenue à cette seconde édition de nos restants de table.
Bonjour et re-bienvenue sur la planète des sages. On se retrouve ce matin pour, encore une fois, une seconde édition des Restants de table. Donc, moi-même, Émile Lapointe, accompagné de mes collègues Patrick Couture. Bonjour Patrick.
Bonjour Émile, super content d'être de retour en studio avec vous. Laissé ma place la semaine dernière à Raphaël. C'était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup sur Marie-Victorin.
Ben, content de savoir que tes oreilles faisaient partie des oreilles des auditeurs qui nous écoutait. bonjour à toi, François Provost.
Bonjour Émile, bonjour Patrick. Je suis très content d'être ici. J'étais là la semaine dernière avec mes oreilles également, mais ma voix pour en parler de Marie-Victorin. Mais je suis encore très content d'en parler avec vous aujourd'hui de nos nouvelles figures.
Oui, ben c'est ça, le deuxième des restants de table. On avait eu beaucoup de plaisir la dernière fois à explorer. C'est ça, dans le fond, pour rappeler aux gens, peut-être. Là, c'est juste que, tu sais, normalement, on prend vraiment une heure pour s'intéresser à une personne. On va s'intéresser à plusieurs personnes. Vraiment, on va un peu partout. Puis c'est des gens qu'on s'est dit, peut-être qu'il n'y aurait pas une heure à faire, mais finalement, des fois, on réalise que peut-être qu'il y aurait eu une heure à faire à jaser de cette personne-là.
Des personnes ou ces thèmes, même, parce qu'il y a un de nos éléments qui n'est pas tout à fait une personne. C'est vivant, Mais c'est pas tout à fait une de nos personnes.
C'est intriguant.
Fait que là, c'est l'invité surprise un petit peu. Je vais vous le dévoiler tout à l'heure. Mais tout d'abord, la première personne dont on va parler, François, c'est toi qui nous a apporté ça cette semaine. C'est un certain John Bercow.
Oui, exactement. Ou John Bercow, mais un genre de Bercow. On peut mélanger ça. Mais oui, une personne que j'ai découvert très récemment. C'est une... je n'ai aucune connaissance de la politique anglaise. Je dois mettre les cartes sur table. Mais récemment, je me suis amusé à explorer ce milieu-là, un spectacle des plus fascinants. Je vous ai partagé mon intérêt. Et quand je dis spectacle, je souligne le mot, puisque la politique anglaise, du moins ce qui se passe en Chambre des communes, c'est très, très intéressant. Oui. Et ce n'est pas la même Chambre des communes que celle que l'on connaît au Canada. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et donc, vous comprenez bien qu'avec ça, John Bercow, c'est un homme politique. C'est un homme politique et le président de la Chambre des communes de 2009 à 2019, il a été politicien lui-même dans le Parti conservateur avant, mais il a surtout été connu parce que oui, effectivement, un président de la Chambre des communes peut être connu, c'est son cas, puisque depuis qu'il a été président, il s'est fait de plus en plus connaître par le grand public parce que c'est un homme fascinant et un homme très drôle. Et c'est aussi un homme qui est très connu pour la célèbre citation « Order ». Mais je vous invite à ceux qui ne le connaissent pas d'aller voir ça parce que, bon, vous comprenez, parallèlement à la Chambre des communes au Canada, le président et le speaker, que tu disais en termes anglophones, c'est celui qui met l'ordre dans la Chambre des communes et qui va donner le droit de parole, etc.
D'où la citation « Order ».
Order. Et John Bercow a fait ça de 2009 à 2019, mais il l'a fait d'une façon très intéressante, surtout que la Chambre des communes anglaise est beaucoup plus animée qu'elle l'est au Canada. Et j'aimerais ça qu'on mette un petit extrait juste pour entendre la voix de John Bercow et en même temps s'imbiber de cette énergie-là de la Chambre des communes britannique.
Whether I can or not, I'm going to. I do know what I'm doing in these matters.
So do we.
And I do know the standing orders, and I do listen to the advice. Sometimes you get these pop-up characters who think they understand these matters on the basis of minimal familiarity with the said standing orders and presume to say that the rules have been broken. They are entitled to their opinions, but they suffer from the notable disadvantage of being completely wrong.
Alors, on entendait ici la voix de John Bercow, une voix caverneuse et qui prend beaucoup, beaucoup d'espace, on dirait. On dirait quasiment un show.
Mais là, je m'amuse énormément à regarder des extraits de la Chambre des communes britannique. Pour les amateurs de Monty Python et de l'humour anglais, c'est pas mal dans les mêmes registres. On croise des personnages, là, et c'est vraiment... On entend les voix pendant que John Bercow s'adresse aux politiciens. Les gens sont en train de marmonner, ils se lancent des affaires un peu, et même la manière que John Bercow s'adresse aux autres, il les remet à l'ordre. C'est un peu... Il n'y a pas de l'insulte, là, mais tu sais...
C'est pas loin, hein, on dirait.
C'est de l'insulte très bien dit, disons, mais justement, c'est un personnage que je trouve intéressant parce que, premièrement, il est devenu populaire, donc dans la culture populaire, en tout cas du moins sur le web, surtout en Angleterre, c'est vraiment John Bercow va dans des talk shows et tout le monde reconnaît sa façon de dire « Oda ». Et vous voyez que j'aime beaucoup de dire ce mot, mais il est vraiment devenu très connu, mais pour parler de sagesse, je trouve que c'est également une personne qui peut nous en apprendre. C'est surtout par rapport à sa façon de parler, parce qu'après avoir été exposé un peu plus à ce personnage, j'ai réalisé que son élocution, son vocabulaire, son éloquence est vraiment remarquable. En plus, qu'il est très drôle. Mais dans l'extrait que vous venez d'entendre, justement, on n'a pas fait la traduction, mais la dernière phrase, si je fais la traduction, il dit, en traduction libre, « Ils ont droit à leur opinion, mais ils souffrent de l'inconvénient notable d'avoir complètement tort. » C'est vraiment une manière très originale et très bien dite de dire à quelqu'un « Tu te trompes, j'ai raison, mais... » sa manière de parler est toujours comme ça, avec des, une façon très éloquente, très distinguée, un vocabulaire très soutenu. Et c'est, ça me fait penser, justement, lorsqu'on parle de sagesse, on a peu souvent abordé la question du véhicule de la sagesse et le véhicule le plus important des idées de la sagesse, de la pensée, c'est la parole. Il y a l'écrit... Effectivement, mais il y a la parole qui est une des plus communes parce qu'on s'entend que respirer, marcher et parler, c'est pas mal le top 3 des choses qu'on peut faire dans une journée, peut-être. Il y a dormir aussi qui prend quand même une belle place, là, mais je ne ferai pas le palmarès, j'ai pas des études scientifiques non plus pour connaître les statistiques, mais parler est quelque chose qu'on fait énormément et moi, ça me fait réfléchir de voir un orateur aussi puissant qui maîtrise le pouvoir de la parole, qui maîtrise quelque chose qu'on fait chacun à tous les jours, mais d'une manière qui puisse être remarquable à cause de ça.
Et c'est drôle que t'en parles, parce que la dernière fois qu'on a abordé un peu ce sujet-là, on se souvient, c'est avec Winston Churchill, qui est aussi un Anglais bon, d'une autre époque, mais qui avait aussi cette capacité-là que souvent on trouve qu'on la perd de vue au Québec, je sais pas, c'est quand même une critique qui est souvent faite, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des politiciens là, qui nous emmènent avec eux là, par la parole, que c'est vivant.
Mais la critique est bonne pour l'homme politique, mais c'est aussi, en général, quand on fait une réflexion de société, je trouve que, puis c'est pas uniquement au Québec, mais en général, pour un des outils qu'on utilise le plus souvent, la parole, on le fait, somme toute, d'une façon paresseuse. Pour quelque chose qu'on fait considérablement dans une journée, oui?
Les exposés oraux, c'est un bon exemple. Non, mais c'est vrai, c'est à quel point c'est plate, là, on se souvient au secondaire, puis c'est ça qu'on veut développer. Ah, là, Dieu, ouais. C'est pour ça que dans tous nos programmes, là, depuis le primaire, je pense qu'on fait des exposés oraux au primaire, c'est ce qu'on cherche à développer chez les jeunes, mais c'est fou, là. Souvenez-vous, au secondaire, c'était la journée que c'était juste des exposés oraux, à quel point c'est lourd, parce que c'est ça, on n'a pas cette envie-là, on dirait, je sais pas, je saurais pas l'expliquer, sûrement des études là-dessus, je sais, mais oui, effectivement, on dirait qu'on a de la difficulté à essayer d'aller chercher l'intérêt des gens par... Notre parole.
Mais on voit aussi que c'est une question de pratique, parce que là, on est à l'école, on est dans nos premiers balbutiements de parole en public, mais après, on a peut-être d'autres occasions de pratiquer cet art-là. Mais c'est drôle à quel point, justement, on pourrait dire qu'on pratique l'art du discours, comme on l'appelle parfois la rhétorique, dans ces événements ponctuels-là à l'école, on fait un exposé oraux, mais comment que, malgré le fait qu'on parle constamment, on pourrait dire que les ressources mobilisées pour se pratiquer sont quand même pas à la hauteur de tout ce qu'on... de tout le travail ou toute la parole qu'on va faire dans une vie. Il y a quand même peu de moments de pratique. Si on peut dire ça comme ça, je pense. Mais justement, la rhétorique, ça fait très longtemps que cet art du discours-là, de l'argumentation, de la parole, ça fait longtemps que des penseurs ont développé ça. La Grèce antique, ils sont d'ailleurs très... C'est la période très...
Ils ont inventé le rap. C'est même pas des jokes. C'est là qu'ils retournent... La chanson rap, là, on peut aller chercher les espèces de duels, le rap battle, comme on dirait, là, les espèces de duels de locution et de rhétorique.
Ouais, ben la joute, l'idée de la joute langagière, c'est très, très présent chez les Grecs.
Mais ça, le DJing aussi était très, très commun à l'époque.
C'était plus difficile parce que c'était des plaques de marbre. C'était plus difficile.
Mais si je peux plugger du savoir grec, quand même drôle, justement, à quel point il y a eu un moment dans la Grèce antique où c'était important d'être éloquent. Il y a un homme politique quand même célèbre, un orateur qui est Démosthène, et lui, justement, c'était son but de devenir le meilleur orateur, et il se pratiquait en se mettant des roches dans la bouche pour comme... pour pratiquer son élocution, là, pour pratiquer... Je sais pas exactement
qu'est-ce
que
ça donnait.
Peut-être
pour l'anecdote, l'histoire va se souvenir de tout ça.
Que je me suis mis des roches dans la bouche.
J'ai eu à le présenter dans un exposé oral et j'ai fait un parallèle avec Rocky. Moi, je l'imaginais.
Rocky, bon
avec
jeu
ses roches dans la bouche, à donner des coups de poing sur un morceau de viande. Là,
oui, exactement.
Mais justement, donc, à la Grèce antique, la rhétorique était quelque chose de très important, mais aujourd'hui, et la question, je vous la pose, quelle est la place de la rhétorique dans la société actuelle, parce que même en politique, tu l'as mentionné, Patrick, mais c'est sûr que quand on peut pas comparer nos politiciens d'aujourd'hui à Winston Churchill, il y a quelque chose, il y a une comparaison est pas juste à mon humble avis, mais ça reste que il y a toute le phénomène de la langue de bois qui est partagé par plusieurs politiciens, mais c'est une façon de voir comment que à la fois la politique parfois ne représente pas nos idéaux de qu'est-ce qu'on fait comme l'art du discours, mais même qu'elle va elle-même être un vecteur de l'appauvrissement d'une langue, puisque la langue de bois, finalement, c'est une langue qui dit rien, et les gens qui représentent la société et qui doivent argumenter, doivent faire des discours, sont ceux, finalement, qui représentent la langue de bois. Donc, déjà là, au niveau politique, il y a quelque chose qui se perd, mais... on peut l'analyser de plein de façons, mais vous, qu'est-ce que vous voyez de la rhétorique aujourd'hui?
Au niveau de la langue de bois, là, c'est comme la manière pour s'exprimer. Il y a une raison pour laquelle la langue de bois est si populaire, on va dire, entre guillemets, dans les milieux politiques ou dans les milieux, mettons, des relations publiques en général. C'est que c'est la manière la plus efficace de s'exprimer sur le plus de choses possible en prenant le moins de responsabilités possible. Mmh. Fait que t'es présent partout, mais tu prends pas de risque, t'es juste gris, puis tu te présentes, t'es là, ils pourront pas dire que t'étais pas là, mais t'as rien dit de pertinent ou t'as pas pris de position parce que tu voulais pas prendre de risque.
C'est du présentéisme verbal.
Ouais, c'est ça.
J'ai dit des mots à ce moment-là.
Tu sais, on critique la langue de bois, mais l'affaire, c'est que ça fonctionne. C'est que ça connaît un certain succès.
Et on le fait, nous aussi.
Oui, absolument.
Quand je disais qu'il y a une paresse parmi la plupart des gens qui vont parler, c'est aussi que... on le sait, des fois, on dit des choses sans le penser ou sans être très conscient quand on parle. On parle en automatisme. On se donne pas... comme là, je dis, on se donne pas. T'sais, je dis, on se donne pas. Justement, c'est quand même paresseux. Si je suis à radio, il faudrait que j'essaie de trouver des termes pour dire, justement, il faudrait faire plus d'efforts au niveau de notre élocution pour mieux parler. Mais je trouve qu'il y a... il y a cette chose-là que, étant donné que la parole est si courante, on dirait qu'on ne réalise plus à quel point on peut la travailler.
Mmh. Par contre, je spécifierais qu'il ne faut pas non plus opposer langue de bois et rhétorique, dans le sens que la langue de bois est une technique rhétorique, oui. Comme tu l'expliquais un peu, Émile. Alors que... et c'est ça qui est intéressant avec la rhétorique, c'est que le propre de la rhétorique n'est pas de... défendre nécessairement la vérité. C'est juste de défendre une idée, de défendre un point de vue et de bien défendre ce point de vue-là. Mmh. Puis je pense qu'il y a ce problème-là aussi qu'on a avec la rhétorique, c'est que ça veut pas dire que quelqu'un s'exprime bien et défend bien son point de vue, qu'il a raison. Et ça, c'est quand même troublant parce que d'un fond, on se dit, ah oui, mais si... tu sais, quasiment, on veut presque éviter les gens qui s'expriment trop bien, puis qu'on est comme, ils pourraient, dans le fond, nous manipuler. Puis ça remonte aussi loin que, justement, où on était tout à l'heure, dans la Grèce antique. T'sais, la philosophie va utiliser la rhétorique uniquement si le philosophe est sûr que ce qui avance, c'est des idées qui sont vraies. Platon, dans un dialogue célèbre qui s'appelle le Gorgias, et oui, on est passé de...
John Burkow, Oda,
à Platon.
Si on se met à trop parler de grec, je vais vous ramener à l'ordre. Je vais vous dire, on a.
Je vais juste finir mon idée dans le Gorgias, finalement, c'est un peu ça, c'est une critique des rhéteurs, donc de ces gens-là qui sont des politiciens, qui finalement n'ont aucun intérêt de bien mener à bien les choses politiques, qui ont juste comme intérêt de passer, eux, une bonne vie, puis de justement défendre leurs propres intérêts.
Il y a le groupe des sophistes aussi, qui est bien connu pour...
Rhéteurs et sophistes, c'est presque des synonymes.
Mais c'est ça, mais
on est beaucoup d'un grec.
Mais il y a l'expression sophisme là, aussi qui vient de ce groupe-là. Mais justement, vous voyez comment John Burkow réussit à nous faire réfléchir énormément sur la parole, parce que, ben là, évidemment, on n'a pas parlé longtemps, mais je vous invite à le regarder. C'est un orateur hors pair. Très belle élocution, éloquence, bel esprit. Et il va vraiment s'éloigner des recettes de relations publiques. Il parle vraiment. Donc... Merci. Merci, Patrick.
Je comprends maintenant les signes que tu me faisais en studio.
Ça voulait dire François laisse la parole aux autres. Mais je pense qu'il n'y a pas le meilleur moyen de finir de John Burkow avec son fameux Order, qui est aussi le nom de son chat. By the way, c'est un petit fait intéressant.
Le rendre encore plus attachant. Ben, justement, on parle d'élocution, on parle de rhétorique depuis tout à l'heure, on parle de la parole en général. On a notre collaboratrice, Milly Brousseau-Gauthier, qui nous a fait découvrir découvrir justement la prochaine figure dont on va parler et dont on va entendre un extrait bientôt. Kevin Brunner, si je ne me trompe pas.
Très exactement. Ben avant, on peut accueillir Millie avec nous. Bonjour, Millie.
Allô, ça va bien?
Ben très bien. On est content. On voulait souligner qu'on a eu des collaboratrices cette saison-ci. Comme oui. C'est la dernière, on les roulait avec nous. Donc, Millie, tu nous présentes aujourd'hui, c'est ça, Kevin Brunner.
Oui, je suis vraiment contente de vous parler de Kevin Brunner parce que moi, c'est ma découverte. En fait, il y a quelques années, mais c'est que c'est un artiste. Mais indéfinissable. Donc, je vous propose, en fait, avant qu'on en discute, peut-être d'écouter un extrait, parce que sinon, on va jamais comprendre de quoi je parle.
Bien, allons-y immédiatement avec un extrait de Kevin Brunner.
J'avais découvert en moi et trouvé une nourriture parfaite pour cette quête mentale d'un monde paradisiaque. Dans les brumes d'un demi-sommeil, j'ai eu réminiscence de l'ancienne boîte du biscuit pirate sur laquelle on pouvait discerner une carte au trésor en arrière-plan. Et si c'était agi d'un véritable trésor pirate, caché non pas à l'île à la tortue, mais en nous-mêmes, pirate. Ce n'est pas un mot comme les autres, c'est une invitation à découvrir en soi les ténèbres, à accepter la part diabolique de son être par le biscuit.
Alors, c'était un extrait de Kevin Brunner. Désolé pour les sons de mon Messenger qui ça faisait pas partie de la vidéo.
Mais là, tout est limpide, là. On comprend maintenant qu'est-ce que Kevin Brunner a amené à la sagesse.
mais ça, Millie, là, c'est bien une revue des biscuits pirates, si on comprend
oui.
bien.
En fait, Kevin Brunner, c'est de son vrai nom, en fait, c'est Thierry Havard. C'est un gars qui vient de Saint-Hyacinthe et qui fait des vidéos sur YouTube sur toutes sortes de sujets, dont le mystère des biscuits pirates, mais sa plus connue, là, comme la vidéo qui l'a vraiment mis sur la map, comme on dit, c'est celui sur Aller au Normandin, donc qui est une genre de critique culinaire du restaurant Le Normandin. Mais il fait ça aussi avec plusieurs autres chaînes de restaurants. Il fait aussi des reviews de genre les saveurs de triscuits, tous les aliments d'épicerie un peu mystérieux aux saveurs étranges, bas de gamme. C'est vraiment là-dedans qu'il se spécialise. Et ce qui est vraiment fascinant, je trouve, avec Kevin Brunner, c'est qu'on ne sait pas à quel point c'est sérieux, à quel point c'est une parodie. C'est vraiment fascinant, moi, je trouve. Là, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous a fait d'écouter ça, mais...
Oui, ben je pense que fascinant, ça serait le mot pour l'expliquer. Là, il y a une certaine élocution qui est comme... continue, je sais pas comment le décrire autrement, là. Il nous amène dans une espèce de spirale poétique infinie, puis il y a des touches d'absurdité qu'on a envie de rire un peu, mais en même temps, comme tu disais, Millie, on n'est pas sûr que c'est sérieux, fait que c'est...
Mais j'ai l'impression que quand il nous parle, c'est comme si c'était un journal intime qui était lu, mais qui parle des biscuits pirates ou bien du Normandin, mais on dirait que c'est la manière qu'il nous parle, c'est comme si on devait être... intrigué, tout ce qu'il nous parlait, c'était un mystère que lui était capable de voir à travers les éléments du mystère, mais que nous, on voit juste un menu du Normandin. Et c'est vraiment intriguant, là.
moi, c'est pour ça que je le trouve un peu... je le trouve magique, en fait, là. Parce qu'on ne sait pas, tu sais, est-ce que c'est comme une parodie des autres YouTubers qui, eux, font sérieusement des reviews de produits ou de choses, mais en même temps, tu sais, parce que... Puis, tu sais, il y a quelque chose, il y a une espèce d'esthétique un peu do-it-yourself, tu sais, comme ça paraît que, genre, il fait ça chez lui sur son ordinateur, le montage et tout. Mais en même temps, il y a comme une réelle poésie dans son texte. Il joue avec les mots, c'est que je sais pas pour vous, mais moi ça m'a vraiment là chamboulé de faire la rencontre de Kevin Brunner.
Oui, puis j'aime ça que tu dises que c'est, on sait pas si c'est une parodie des YouTubers, parce que c'est vrai qu'il y a une exploration aussi de ce médium-là qui est relativement nouveau, là, des gens qui peuvent facilement mettre des vidéos en ligne de eux qui donnent leur avis sur à peu près n'importe quoi. Tu sais, moi, je me souviens que ça a commencé quand j'étais peut-être au primaire, tu sais, je me souviens des premiers, là, un entre autres qu'on a perdu de vue depuis, un certain Gaberoy, quand on était jeune, là, qui donnait son opinion. Aujourd'hui, on n'entend plus parler, c'est une bonne chose, mais, mais bon, mais plein d'autres aussi. C'est valeur que ce soit le seul que je me souviens. Mais bon, tout ça pour dire que ça fait peut-être une quinzaine d'années qu'on est là-dedans, donc il y a comme toute une exploration à faire, puis j'ai le sentiment, moi, c'est comme ça que j'analyserais Kevin Brunner, c'est que il rentre là-dedans puis il fait okay, je vais prendre cette matière-là et je vais en faire de quoi d'un peu jamais vu, là. Je vais l'emmener ailleurs, juste comme en conservant certains aspects pour être encore sur la ligne de « Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être vraiment juste un gars qui s'amuse, tu sais, qui fait des reviews YouTube, puis là, tu fais comme « OK, non, on tombe dans d'autres choses. »
Mais quelque chose de beau qui est manifesté par ça, par Kevin, le phénomène Kevin Brunner, c'est de voir à quel point, justement, tu le disais, Patrick, la vidéo est rendue accessible. Le médium de la création de vidéos est tellement accessible, est tellement facile. Le montage aussi n'aura jamais été aussi facile. Ça fait en sorte que il y a vraiment, c'est exponentiel le nombre de contenus vidéo qui se fait actuellement. Et les contenus sous forme, tu sais, ça peut être informationnel, ça peut être artistique, mais ce médium-là est vraiment à la portée de tous, là. Nos parents, là, qui peut-être sont un peu plus vieux, ne connaissent pas la technologie, je pourrais leur montrer facilement à faire une vidéo avec iMovie et eux-mêmes pourraient devenir des créateurs vidéo très rapidement. Mais ce médium-là est un véhicule d'expression qui, dorénavant, est vraiment accessible pour tous, là.
Et je ferai un lien avec notre sujet précédent qui était sur... Tu sais, on a beaucoup parlé justement de rhétorique, de prendre la parole puis bien prendre la parole. Je pense qu'il y a ça aussi. Ça devient tellement facile que n'importe qui peut faire à peu près n'importe quoi sur YouTube et pas nécessairement des choses pertinentes. Et Kevin Brunner reste que ce n'est pas lâche, là. C'est travaillé. Ses textes, son montage, même si c'est bas de gamme, il y a quand même des jeux là, dans les biscuits pirates. Là, on tombe vraiment sur la mer. Il faut le voir en passant. Là, on l'a entendu.
Ouais, il y a
faut
un élément
voir.
Visuel important quand même.
Oui, ben, tu sais, comme je pense que clairement, il y a beaucoup de travail dans ses vidéos. C'est clair qu'il met beaucoup de temps dans ce qu'il fait. Puis le côté de l'esthétique qu'on parlait, je pense que c'est vraiment un choix parce que je pense qu'il pourrait faire quelque chose de plus. Grandiose, mais je pense qu'il cherche vraiment à rester dans cette espèce de bassin-là de gens qui font des vidéos maison. Tu sais, c'est un peu spécial parce qu'on se dit, on parle de vidéos, tout le monde peut en faire, fait qu'on est comme, est-ce que c'est un artiste, est-ce que c'est une performance qu'il fait sur les vidéos ou est-ce que c'est juste des niaiseries? On le sait pas. Mais moi, là, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que je pense que la sagesse de Kevin Brunner, là, dans le fond, c'est un peu la sagesse de la vie. Parce qu'il faut embrasser l'absurdité de notre existence, pas trop se prendre au sérieux là, dans un monde où la dérision est sur le déclin, où on dit là, que les gens, je trouve que les gens se prennent vraiment au sérieux. Puis Kevin Brunner, c'est un bon exemple de genre... profiter de la vie puis avoir du fun, je pense.
Ben merci, Millie. C'est le fun, on est passé de Kevin Brunner à Camus et l'existentialiste, embrasser l'absurdité tout à l'heure.
Bon chum, Camus, est jamais bien loin.
Oui, puis il y a un article d'Urbania sur Kevin Brunner,
oui.
Si je ne m'abuse.
Oui, aussi, mais allez sur sa chaîne YouTube, pour vrai. Là, faites-vous plaisir aujourd'hui, c'est un 4 minutes bien investi.
Ben parfait, merci beaucoup.
Salut!
Salut, puis on va en profiter pour remercier notre collaboratrice, Millie Brousseau-Gauthier.
Oui,
hein?
Pour tout le travail qu'elle a fait avec nous pendant la session. Merci beaucoup, Millie.
On espère qu'elle nous écoute encore. L'appel est terminé.
Oui, OK, ben, je pouvais pas le voir de ma place,
donc,
mais oui.
Ce qu'on retient, c'est que Kevin Brunner, c'est un peu comme la vie. C'est, fait que si quelqu'un veut savoir c'est quoi la vie...
Ben, sans blague, là, après avoir écouté des vidéos de Kevin Brunner, je peux juste être d'accord avec ça, parce que t'as l'impression d'être dans la tête de quelqu'un. C'est ça la beauté de... de Kevin Bruneux.
La tête de quelqu'un un peu poète,
ouais, c'est ça. Mais sur ce, ben, on va falloir qu'on passe à un autre segment. Mais tout d'abord, on va écouter quelques publicités ainsi qu'une chanson. Une chanson qui s'intitule La mauvaise herbe d'un certain Georges Brassens. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Il ne paye pas le prix!
Tu veux ta dose de sport quotidienne?
La dureté du mental! Incroyable!
Écoute Chiz 94.3 du mardi au jeudi de 15h à 16h.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite Antisportive, c'est la réunion des meilleurs passionnés de sport à Québec qui vous parle de l'actualité sportive.
Même nos toughness!
OK, football, baseball, soccer, curling, béton, chasse, pêche et bien plus. Conduite Antisportive, c'est du mardi au jeudi, dès 15h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie. It's not my problem. Téléchargez le balado ou syntonisez Chiz 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal. Wee-hoo!
De gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés. Moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort faucha les autres, braves gens, et me fit grâce à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde a bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, braves gens, elle se donne à moi, c'est immoral et c'est comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange qu'on m'aime un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme les moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis la mauvaise herbe, braves gens, je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu.
Alors, re-bienvenue sur la planète des sages. On entendait la fameuse voix de Georges Brassens qui parlait de La mauvaise herbe, donc oui, c'est...
Pourquoi la mauvaise herbe, Émile? Pourquoi ce choix musical?
Je sais pas. Ben, surprise, dévoilement. Ben, après l'épisode de la semaine dernière sur Marie-Victorin, les gars, j'ai profité des belles journées qu'on a connues, à part celle-là où il y a eu de la neige, là. On a quand même eu des belles journées chaudes pour aller cueillir un peu.
On peut-tu parler de météo plus longtemps? On le fait jamais.
S'il te plaît. Non, mais c'est ça, j'ai profité du beau soleil pour aller cueillir parce que je me sentais inspiré par monsieur Marie-Victorin. Et je me suis penché sur ces petites fleurs jaunes qu'on voit dans les ruisseaux et qu'on pourrait prendre à tort pour des pissenlits.
Mais non.
Et non, ce ne sont pas des pissenlits, ce sont des tournesols. Tournesol, je pense qu'on parlerait pas de petites fleurs jaunes.
Pardon, Émile, vas-y. Le tussilage, tu
oui, disais. Le tussilage qui est une plante qui, une fois séchée et infusée, est efficace contre les troubles respiratoires. Mmh. Ouais, c'est aussi surprenant parce qu'une autre manière de la consommer, c'est de la fumer un peu comme une cigarette. Donc, c'est un peu contre-intuitif pour quelqu'un qui fait de l'asthme, mais ça fonctionne. C'est ça qui est particulier. Donc, le tussilage, c'est une plante qui a des vertus médicinales, mais c'est aussi considéré comme une mauvaise herbe parce que c'est quelque chose qui est envahissant, c'est quelque chose qui arrive à des endroits où on le préfère pas. Mais c'est ça, c'est considéré comme une mauvaise herbe.
Mais comme tu le disais, on la confond avec le pissenlit, qui est justement la
plus connue, je dirais, des mauvaises herbes au Québec.
Numéro un de ceux qui aiment tondre leur pelouse.
Oui. Moi, il me semble que c'est un sujet sur lequel j'aimerais vraiment entendre notre autre collaboratrice, Raphaël Laverdière.
Ben oui, ça tombe bien. Je me suis entretenu avec Mademoiselle Laverdière lors d'une entrevue au sujet, justement, des mauvaises herbes. Donc, on va pouvoir écouter ça dès maintenant.
Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et pour l'art, ces mauvaises herbes, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. Elles sont vraies, elles sont des types, des êtres complets. Donc, c'était une citation de George Sand, une autrice contemporaine de Baudelaire et très productive à son époque. Donc, elle parlait ici de mauvaises herbes, comme on les connaît ici au Québec, mais aussi qui ont été appelées par le passé des malherbes ou de l'adventice en Europe. Donc, justement, avec toi, Raphaël, qui s'intéresse beaucoup aux plantes, on va parler un peu de malherbologie.
Oui, la malherbologie, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est le nom qu'on donne à la science ou les techniques qui étudient les mauvaises herbes. Et selon la définition qu'on a trouvée sur Wikipédia, ces techniques-là qui font la malherbologie, c'est celles qui nous renseignent sur comment les combattre. Donc, en lisant ça, moi, j'ai trouvé ça très, très réducteur, très négatif aussi comme définition, quoique je la comprends. Mais si on revient à la semaine dernière avec Marie-Victorin et sa flore spontanée, je trouvais que c'était une manière beaucoup plus jolie, beaucoup plus intéressante de nommer la chose. Et ça nous rappelle aussi que c'est pas toutes les plantes, tous les végétaux qui méritent systématiquement ce qualificatif-là négatif. Et aussi, si on s'intéresse un petit peu à la botanique, à l'histoire de la botanique, comme on a fait la semaine dernière, on comprend que l'idée d'une mauvaise plante, d'une mauvaise herbe, c'est quelque chose qui est situé dans le temps, qui est situé dans les coutumes, dans la culture. C'est quelque chose qui change avec les mœurs aussi, parce que chaque plante n'est pas considérée comme une mauvaise herbe à toutes les époques. Le fait est qu'on oublie certaines plantes à certaines époques, on en délaisse certaines variétés, on remplace certaines propriétés que nous offraient les plantes par des procédés chimiques, des procédés artificiels. Donc le fait est que ce qui est une mauvaise herbe ou une bonne herbe, ça change beaucoup avec le temps.
Ben oui, juste d'un point de vue de l'expérience pratique, j'avais un emploi d'été en tant qu'horticulteur, puis la flore spontanée, je peux vous dire qu'elle était spontanée pour vrai. Là, dès qu'on repréparait un terrain à planter quelque chose, la première chose qui sortait, là, c'était ces petites plantes-là qui sont très résilientes et très envahissantes, comme on pourrait dire. Mais en même temps, d'un point de vue qui est moins pratique, et plus sensible, un peu, comme on pourrait dire. Là. On va chercher un certain intérêt dans ces plantes-là. Là.
Absolument. Ces plantes-là que tu dis qu'ils repoussent tout de suite sur le terrain vide, on appelle ça des plantes pionnières. Et une plante pionnière qu'on a ici au Québec qui est très intéressante et qui porte malheureusement le nom de mauvaise herbe, c'est le chénopode blanc, qu'on appelle aussi le chou gras ou la poulette grasse dans la langue commune. C'est un cousin du quinoa. C'est une plante qu'on n'exploite pas du tout ici, mais qui pousse partout. On en a partout dans nos cours, sur le bord des routes, sur le bord des autoroutes. Le nom chou gras, ça vient vraiment du Québec, ça vient de l'expression « jeter ses choux gras », qui signifie « jeter des choses qui sont encore bonnes ». Donc moi, je trouve que c'est totalement... Ça fit totalement avec la plante, qui est une plante vraiment étonnante, qui a une teneur élevée en vitamine A, en vitamine C, en calcium, en protéines. Ça goûte même très bon. Je trouve que ça goûte quelque chose entre l'épinard et l'avocat. Et soit dit en passant, je réfléchissais à comment nommer le goût de cette plante-là. Et c'est intéressant de réfléchir au fait que nos référents gustatifs pour parler de ces plantes-là exotiques, entre gros guillemets.
Ouais, je les vois d'ici, là, les guillemets sont gros.
Ouais, nos référents gustatifs sont restreints. On est toujours en train de faire référence à ça goûte le poulet, ça goûte l'épinard.
Classique, hein, en termes de viande, oui, ça goûte
exact,
le poulet.
Exact. C'est directement lié aux variétés de végétaux qu'on consomme de manière quotidienne et qui est directement en lien avec l'offre des épiceries et non pas ce qui pousse juste sur notre terrain ou juste à côté de chez nous. Donc c'est intéressant de réfléchir à ça. Ouais, le chou gras est intéressant, il était cultivé dans l'époque des... l'époque des Romains, c'est une époque qui est assez étendue dans le temps, mais...
L'Antiquité, quand même.
pendant l'Antiquité, exactement, il était cultivé, il était cueilli, consommé dès la préhistoire, apparemment, et a fait office d'aliment de secours pendant les disettes, jusqu'au 19e siècle.
Il n'y en a pas juste eu 17 des disettes, il y en a eu pas mal à cette époque-là. Mais oui, tu mentionnes la préhistoire, qui s'est entre autres achevée avec la révolution agricole, c'est-à-dire vraiment se sédentariser puis commencer à cultiver des choses en masse, comme le blé, par exemple. Ben, on peut s'imaginer que c'est à partir de ce moment-là que les humains ont fait comme « Ah, OK, là, je commence à faire pousser mes trucs. » Je veux pas de cette plante-là qui prend la place de ce que je voudrais faire pousser. Fait qu'à partir de ce moment-là, on avait comme un jugement envers certaines plantes qui, avant, quand on était seulement des cueilleurs, on trouvait une utilité un peu à n'importe quoi. On était plus en mode survie, là.
Mm-hmm. Ouais, on comprend d'où vient l'appellation mauvaise herbe parce qu'effectivement, l'échénopode, en particulier, c'est une plante qui... ça menace les agricultures, mm-hmm. les champs, les grands champs, les grandes agricultures à grande échelle.
Tu parles de chénopodes, mais on pourrait parler de pissenlit,
d'à peu près n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, en agriculture au Québec aussi, puis un peu partout dans le monde, il y a de l'intérêt pour les agricultures de petite taille, les petites fermes, la permaculture, le fait de respecter un petit peu plus les conditions que la nature nous offre déjà en partant. Donc, on finit par s'intéresser un peu plus à ce qui pousse autour de nous. Puis moi, je trouve que c'est une merveilleuse idée. Et on peut penser justement par rapport à ça aux secteurs émergents au Québec, un peu partout au Québec, beaucoup au Saguenay, beaucoup sur la Côte-Nord, des produits forestiers non ligneux. Donc, tout ce qui est « mauvaises herbes », entre guillemets, champignons, petits fruits nordiques, la chicoutée, les quatrinettes, n'importe quoi, les quatre-temps. Donc, moi, je trouve que... on s'en va vers quelque chose de très intéressant, puis si on peut apprendre plus à connaître ce qui pousse sur notre propre territoire, bien, je pense qu'on serait gagnant de ça.
Bon, ben c'est une belle petite discussion qui a été faite un peu inspirée des artistes qui parlaient des mauvaises herbes, des artistes et des scientifiques qui parlaient des mauvaises herbes. Donc, sur ce, on va pouvoir retourner en studio avec les gars et moi-même dans le futur.
Alors, je tiens à offrir mes salutations à moi-même du passé. Je me suis lancé la balle lors de l'entrevue, mais en tout cas, je remercie encore Mademoiselle Laverdière de nous avoir accordé de son temps pour qu'on puisse jaser de cette façon des mauvaises herbes.
Et tout son temps qu'elle nous a accordé au courant de la saison, puisque oui. Raphaël nous a appris beaucoup de choses très intéressantes sur de multiples personnages. Merci beaucoup, Raphaël.
Absolument, absolument. Vraiment, la collaboration des collaboratrices a été plus que précieuse. Donc, moi, je vois le lien, on dirait, entre Kevin Brunner, qu'on parlait juste avant, et les mauvaises herbes. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'observation du détail, puis d'aller chercher, comme je parlais plus tôt, dans l'extrait, l'utile versus un peu le sensible, là, d'aller chercher comme de l'inspiration de ces plantes-là ou encore de voir leur... je vais mettre ça en guillemets, mais leur personnalité à travers ce qu'elles ont comme propriété, là, par exemple. Là.
Oui, le caractère transcendant des mauvaises herbes oui. par rapport aux normes culturelles, mais ouais. c'est juste de lorsqu'on voit un pissenlit, j'ai l'impression que, comme vous l'avez bien mentionné, ou un tutelage, mais ce qu'on appelle des mauvaises herbes, notre société les voit comme étant des mauvaises herbes avant de voir une plante. Donc, quand on voit premièrement le côté néfaste, on ne veut pas le voir. Et ensuite, c'est ce que nous, Raph et toi, vous nous invitez à faire, c'est de voir la plante derrière l'usage ou le contexte culturel et de voir la plante comme c'est un élément naturel qui ne mérite pas essentiellement qu'on y attribue des affects négatifs. Mmh. C'est uniquement par le côté utilitaire, mais la plante ne nous a jamais rien fait.
Hein. Juste avant qu'on passe au prochain sujet, je tiendrais juste à dire qu'il y a une appellation que je trouvais intéressante qu'on a mentionnée pour ce qu'on appelle des mauvaises herbes, ça serait les herbes pionnières, donc qui refont sur quand il ne reste plus rien.
Oui, puis j'ajouterais juste que je trouve que c'est un thème qui colle bien avec le concept qu'on fait aujourd'hui des restants de table, parce que ben, comme on l'a vu dans votre entrevue, les mauvaises herbes, c'est quelque chose sur lequel on ne s'arrête pas nécessairement, mais desquelles on peut apprendre beaucoup. Puis c'est un peu ça aujourd'hui qu'on fait des choses qu'on trouve un peu... ben, t'sais, mettons, le gars de Arda sur Internet, qui l'eût cru qu'on allait faire des liens avec la Grèce antique. Ouais. Par contre, justement, pour le dernier segment de l'émission, la dernière figure à laquelle on s'intéresse, là, on aurait vraiment pu faire une heure facilement dessus. C'est pas un restant de table. C'est très loin d'être un restant de table, mais on voulait absolument en parler, profiter de la fin de la saison pour parler de notre découverte à tous récente. Mm-hmm. Donc, découverte récente, mais quand même quelqu'un qui existe depuis très longtemps. On parle bien sûr de Claude Crest, qui est un grand humoriste québécois. Bon, il se passe de présentation, mais quand même, on peut en parler un peu. Claude Crest, 90 ans, ça fait 70 ans qu'il est dans le milieu de l'humour. Il a grandi dans Hochelaga, Maisonneuve, quand il était jeune, et puis c'était un vrai blagueur qui s'est mis, bon, à plus tard dans sa vie, fréquenter les cabarets, et puis il s'est mis à faire de l'humour, et ben, sa carrière, là, il a côtoyé tous les grands de ce monde, là, Olivier Guimond, Léo Rivet. Et donc, il a fait télévision aussi, de la radio, tout ça, et on l'avait vraiment perdu de vue. Et tout récemment, dans les derniers mois, il s'est mis, grâce à sa femme, à découvrir l'univers du podcast. Et puis là, grâce à ça, ben, aujourd'hui, on le voit, on l'entend de plus en plus dans des podcasts.
C'est une redécouverte, j'ai l'impression. Oui. Culturellement parlant, on redécouvre l'homme.
C'est ça. Puis, entre autres, là, ben, il est allé, c'est ça, au podcast de Thomas Levac, à celui de Guillaume Pinault. Il fait également des vidéos sur YouTube. Donc, on peut apprendre là, tout son parcours dans le monde de l'humour. Et puis, il s'est fait connaître, entre autres, avec un numéro, là, le numéro de la balloune, où, bon, il remettait... il insultait, il tirait la pipe un peu au public. Puis là, il remettait une il disait à quelqu'un dans le public, mettons, qu'il y avait une petite bisoune, puis là, il remettait une balloune en disant « Une petite balloune pour une petite bisoune. »
Excellent. Ça nous fait encore rire aujourd'hui. C'est un classique de l'humour.
Oui. Non, c'est magnifique. Donc, on va l'entendre... juste pour voir à quel point c'est un homme dévoué, c'est une vidéo dans laquelle il raconte quand il est allé voir sa mère sur son lit de mort, alors qu'il avait il était supposé faire un spectacle, et ce que sa mère lui a dit, c'est magnifique. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui a été fait pour l'humour.
Elle dit « Claude, qu'est-ce que tu fais ici? Il est 6h30, puis à 7h, tu joues à Comédie canadienne. » Elle est assez fière que son petit Claude soit à Comédie canadienne. T'sais. Un Claude au-dessus, je lui dis « Ah, oh, fais-toi-en pas avec ça. Ils vont trouver quelqu'un pour me remplacer. » Elle, tout de suite, elle me regarde, puis elle dit « Claude, le bon Dieu t'a mis ça à terre pour une raison. Hein. C'est tirer tes poumons un peu. Il y a toute ta gang là, qui t'attend. Va donc y rejoindre. » Puis je l'ai écouté. J'ai donné un dernier bec sur le front, puis je suis allé faire mon spectacle. Puis elle a eu raison, parce que, encore à ce jour, c'est le meilleur spectacle que j'ai fait de ma vie.
Puis quand...
Je ne sais pas si vous l'avez entendu, nos auditeurs, mais on avait peine à retenir nos larmes. C'était, c'est très émouvant comme extrait. Claude Crest, tout qu'un personnage.
Et puis là, on est vraiment, vraiment content parce qu'on a Claude Crest lui-même avec nous qui a accepté de nous parler. Bonjour, Monsieur Crest, vous nous entendez?
Oui, on t'entend bien, garçon. Bonjour. Oh,
bon, bonjour, Monsieur Crest. On est vraiment, vraiment heureux de vous avoir à la Planète des Sages. On a su que ça pouvait concorder nos horaires, donc on en a profité. Je vois que vous avez une petite crème de menthe avec vous. Là, je vous en
visuel. Ben oui, là, je sais pas, il est quelle heure, il est quoi, il est quasiment 11 heures. C'est sûr, c'est pas ma première, là. C'est pas ma première, là.
Ben oui. Claude, Monsieur Crest, quand même, on voulait vous demander, c'est quoi votre définition à vous de la sagesse?
Oh my! Elle m'a dit en affaire, moi rendu à 90 ans, là, Claude Crest, là. 90 ans quand même, là. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Ça, c'est pas mes vrais cheveux, là, cette perruque, ça. Pas mes vrais dents, dans mon sein entier. La moustache, c'est la vraie, par exemple. Bon, la sagesse pour moi, tu sais, souvent on passe notre vie à essayer d'être quelqu'un. On veut se faire notre place, on veut... Puis là, je suis rendu une place dans ma vie à 90 ans qu'on dirait que j'ai compris que un coup que c'est fini, c'est fini. Puis dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, il n'y a plus personne qui va se souvenir de nous autres. Fait que tu sais, peut-être de moins se prendre au sérieux. Faut pas trop se prendre au sérieux, tu sais. Ce serait ça pour moi, la sagesse. Quand tu apprends que... de prendre ça plus smooth un peu, là. Tu sais, je trouve que c'est là que ça commence à être le fun pour vrai.
Ben c'est une très belle définition. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait d'un YouTuber. Je sais pas si vous connaissez un peu l'univers de YouTube, Monsieur Crest.
Non, je connais pas ça.
OK, ben c'est des vidéos puis tout ça, puis on en est venu à une conclusion semblable là, que la sagesse, finalement. Mais là, c'est beau de l'entendre de quelqu'un qui a autant de vécu que vous. D'ailleurs, je parle de YouTube, puis il y a mon collègue François qui avait beaucoup de... ça l'intriguait beaucoup, votre rapport avec la nouvelle génération, surtout dans le fait que vous venez d'arriver dans... pour nous, on vous avait perdu de vue pendant longtemps, et là, grâce aux nouvelles technologies, on apprend à vous connaître. Je sais pas, François, est-ce que tu avais une question pour M. Crest?
Oui, mais c'est toute l'idée de comment que la jeune génération s'est appropriée d'une certaine façon votre œuvre, parce qu'il y a beaucoup de communautés qui vous suit, il y a beaucoup de gens qui vous donnent une plateforme pour parler. Et comment vous voyez ça, ce choc des cultures-là?
Hey, je sais pas comment te l'expliquer. Tu sais, moi, 70 ans de carrière quand même, une carrière longue de même, c'est que t'as des hauts puis des bas. Puis là, tu vois, mettons, dans les 10 dernières années, le monde l'avait oublié, Claude Crest, là, c'est comme s'il n'existait plus. Oh, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, là, moi, je te laissais pas avec ça. Mais là, ce que je trouve le fun, c'est que c'est des petits jeunes, là, ça a 15, ça a 20 ans, 30 ans, puis ça tripe sur Claude Crest. J'ai l'impression, là, c'est pas à moi de le dire, mais j'ai l'impression que quand t'es rendu une vieille affaire comme Claude Crest, tu deviens comme, comment qu'on pourrait dire ça, tu deviens comme un à part de la société, tu sais. Tu deviens comme un oublié, puis ça, les jeunes, ils aiment ça. Quand t'es mis de côté, je pense qu'ils se reconnaissent dans Claude Crest. Puis, tu sais, moi, j'ai des origines, tu sais, je viens d'Hochelaga Maisonneuve, là. C'est un quartier pauvre, là. Fait que je l'ai connu, moi, la grosse misère. Puis je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils en arrachent aussi souvent. Fait que peut-être pour ça qu'ils disent, Chris, le vieux Claude Crest, il est pauvre comme nous autres.
C'est un beau message rassembleur, ça, monsieur Crest. Très rassembleur.
Ben, peut-être, je sais pas. Tu sais, après ça, bon, c'est sûr, tu sais, une joke de bisoune, là. Est aussi bonne dans le temps qu'elle l'est aujourd'hui. Tu sais, c'est peut-être ça aussi, là.
Mais oui, ben, tout à l'heure, je parlais du numéro de la bisoune et de la balloune. Je pouvais pas m'empêcher de rire encore aujourd'hui.
Ben oui, moi, je riais de ta petite bisoune. Puis après ça, je te donnais une balloune pour, tu sais, qu'on se mette chum un peu. C'est un grand numéro, ça. C'est un grand numéro. C'est ça qui m'a mis sur la map.
Oui, oui, puis d'ailleurs, vous avez parlé de... votre relation à votre quartier pauvre et tout ça. Et si je me souviens bien, en entrevue, vous disiez que vous aviez même déjà, par votre humour, là, emmené, vous avez conduit à une grève des travailleurs, si je ne m'abuse, quand même.
Oui. C'est quand je travaillais à Montreal Cotton, mon père m'avait fait rentrer là-dedans. Je n'étais pas vieux, là. Je devais avoir 10 ans, puis 15 ans à peu près. Et là, à un moment donné, moi, je trouvais ça plate à mort. Tu sais, nous autres, ils nous engageaient pour réparer les machines. Puis si la machine, elle repartait, puis qu'elle te cassait le bras en quatre, tu retournais chez vous de faire des sandwichs au poulet, tu sais. Bien, tout ça pour dire que moi, rapidement, pour me désennuyer, je comptais des jokes aux employés, aux ouvriers, puis pendant le midi, ça devenait des petits spectacles de Claude Crest. Ben, maintenant, on a tellement eu de fun que les boss, les blocs en haut, les riches, eux autres, ils ont interdit les spectacles de Claude Crest. Hey, tu sais, tu peux enlever bien des affaires au monde, mais tu peux jamais leur enlever le droit de rire, tu sais, le droit de se faire tirer à la pipe. Fait que les gars, ils ont parti à la grève, les femmes aussi qui travaillaient là, ils ont parti à la grève, avoir des meilleures conditions de travail, puis c'était tout là, on veut un temps de dîner, on veut une assurance, on veut... Puis, il y avait en bas, on veut le spectacle de Claude Crest sur le midi. On veut se faire tirer à pipe. Il aimait ça.
Comme quoi l'humour peut être plus fort que tout. Quelqu'un comme ça avec du vécu, on vous parlerait pendant des heures, Monsieur Crest. Malheureusement, notre émission tire à sa fin. On voulait peut-être très rapidement aborder un dernier sujet avant de vous quitter. C'est votre relation à votre gérant, Pierre Harrison, qui est assez polémique dans les médias parce que on sait que c'est pas, selon vos propres mots, là, c'est un hostile. De trou de cul, Pierre Harrison.
Oui, exact. T'en as ce petit crosseur.
Mais vous avez avec un lien de sang. Puis moi, il y a quelque chose que je trouve ça beau quand même.
Je
sais pas. Comment vous voyez ça, la promesse qu'on fait à quelqu'un, le lien qu'on garde avec quelqu'un.
La loyauté.
Comment vous voyez ça dans le monde artistique, c'est... vous? Pensez-vous que c'est nécessaire?
Ben oui, c'est à la vie, à la mort. Tu sais, aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, tu te pars un duo avec ta chum de fille, puis je sais pas, elle pousse un petit rat de travers, puis le duo, il n'existe plus. Nous autres, dans le temps, c'était à la vie, à la mort. Fait que moi, j'ai fait un pack de 5 Pierre Harrison. C'est un petit truc cul, là. Il me faut long comme le bras. Mais c'est à la vie, à la mort. On se lâche jamais, même s'il me prend 70% de mon gâchet, jeune homme. Ça a-tu de l'allure?
Ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, c'est beau d'outrepasser ça.
Puis je tiens à dire, cet esti-là, il a flobé toute notre subvention pour le documentaire. On avait 25 000 piastres, on voulait faire un beau documentaire sur Claude Crest. Il s'est acheté un lit de bronzage, de salon de bronzage.
Est-ce qu'on n'aura pas le documentaire finalement?
Là, on a fait un socio-financement finalement. Les deux petits gars qui m'aident, Maxime Gervais et Aquim Gagnon, fait un socio-financement. Puis là, on ramasse les sous pour faire le beau documentaire sur Claude Crest.
Ben, on a hâte de voir ça. Merci encore, Monsieur Crest. C'est génial de vous parler. C'est beau.
C'est un honneur de vous parler.
C'est vraiment un très grand honneur. On vous remercie.
N'as-tu un de vos deux que c'est le fils Atticus?
Non, le fils Atticus, il est pas parmi nous, malheureusement.
Ah, ok, je pensais que vous étiez le fils Atticus. Ok, bon, c'est pas grave.
Ben, merci bien. Passez une bonne journée, bonne crème de menthe.
Merci, Monsieur Crest.
Ah, ben, c'est pas la première, c'est pas la dernière.
Salut.
Wow, un moment mémorable.
Quel homme.
Je suis content d'avoir vécu ça avec vous, les gars. Honnêtement, Pat, tu me disais que tu pourrais avoir Claude Crest à l'émission, puis je te croyais pas. Là. C'était comme, je pensais pas qu'il était accessible.
Ouais, ben c'est ça, c'est par le petit gars dont il parlait, là. Donc Maxime Gervais qui l'a un peu mis sur la map. Et puis,
on attaché de presse, quelque chose comme ça.
Qui fait déjà une meilleure job que Pierre Harrison.
On n'en parlera pas trop parce qu'on va se fâcher en nombre.
Mais par contre, il faut vraiment le dire, moi, quand même, s'il y avait autant de gens qui respectaient leurs promesses, leur pacte de sang comme Claude Crest, je pense qu'on serait dans un monde meilleur. Vraiment plein de sagesse qui se dégage de cet homme-là.
Moi, comme je disais, j'aime vraiment ce choc des cultures-là parce que, comme M. Crest l'a mentionné, la loyauté, le pacte de sang, c'est quelque chose que nous, notre culture, les plus jeunes, disons, la culture des milléniaux, elle a plein de bons côtés et de mauvais côtés, mais la loyauté, c'est quelque chose qu'on oublie. J'aime le mélange, les échanges transgénérationnels entre des gens comme M. Crest et les jeunes. Je trouve ça très beau à voir. Un homme ouvert aussi, parce qu'il faut qu'ils veulent nous parler.
Mais en voyant le temps, tu parles de la loyauté, François, puis je vois les minutes qui s'écoulent avant de la fin de notre dernière émission de la saison. Je tiens à remercier d'ailleurs la loyauté de nos auditeurs qui nous ont écoutés, soit en différé, soit en direct, aux ondes de Chiz 94.3. Donc, on vous remercie. On était contents de vivre cette expérience-là avec vous.
Oui, puis ben aussi, on vous invite à, si vous n'avez pas écouté, ben vous pouvez réécouter des épisodes, en fait. Là, on est sur Spotify, on est sur iTunes. Là, on arrive au bout de, c'est ça, notre première saison, on pourrait dire. Oui. Puis, dépendamment, suivant, en tout cas, notre première année ensemble, mm-hmm. puis on va revenir l'an prochain, c'est sûr. Mais déjà, comme je le disais dans mon texte d'introduction, on a vu du monde cette année. Oui. Moi, je sais pas, ça m'intriguait, les gars, de vous demander s'il y avait une découverte que vous avez faite particulièrement cette saison-ci.
J'ai adoré Bruce Lee. J'ai bien aimé parler de philosophie à travers un sportif, parler de canalisation, d'agressivité, de discipline. J'ai bien aimé.
Justement, on reste dans le mouvement parce que moi, c'était Pina Bausch. Mm. Un milieu, la danse, que j'avais vraiment jamais exploré. Puis que là, j'ai pu découvrir quelque chose de super intéressant là, qui m'a vraiment fait me remettre en question à ce niveau.
Ton côté, Patrick?
Je pense que j'irais avec Céline Galipo. J'avais un sourire constant. J'étais comme, tu sais, moi, c'était vraiment les nouvelles de 22h. Et puis là, finalement, apprendre tout le background derrière, c'était quelque chose.
Parfait. Puis je l'ai pas dit, mais merci à vous, les gars, pour cette émission. On a eu beaucoup de fun, je pense, pendant la saison. Puis j'espère que ça l'a paru à travers nos micros.
Mmh. Merci à toi, Émile, d'avoir agi à titre d'animateur, mais également, tu es celui qui s'occupe de la technique. C'est très apprécié.
Avec mes bras tentaculaires qui se promènent partout.
Et puis, dernier remerciement, là, on va s'éterniser comme des fins de gala, mais nos deux collaboratrices, encore une fois, Raphaël Laverdière, Émilie Brousseau-Gautier. Et puis, on remercie particulièrement pour cet épisode-ci Claude Crest. Mm-hmm. Également notre ami Mathieu Deblois qui nous a appelé dans la saison.
Et Serge Bouchard
qui nous a envoyé sa définition de la sagesse.
Donc après tous ces remerciements, on peut vraiment se dire ça a été un plaisir, puis on va se retrouver la saison prochaine, on l'espère, sur les ondes de Chiz 94.3. En attendant, cet été vous allez pouvoir nous retrouver format podcast sur Spotify, toutes les plateformes de podcast qui sont disponibles, justement. Donc on se dit à la prochaine.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Sur une distance de 20 verres, la Coupe Vanier au bout du pied.